Un document global signé de concert il y a quelques minutes à peine par Donald Trump et Kim Jong-un, signe d'un changement important pour les deux dirigeants américains et nord-coréens après près de 4 heures de sommet cette nuit. Premier bilan depuis Singapour dès le début de ce journal.
Et puis nous irons ensuite à Séoul pour les premières réactions des principaux concernés, les Coréens du Sud et du Nord.
À Bruxelles, certains veulent revoir le règlement de Dublin qui rend responsable de l'asile les pays par lesquels les migrants entrent sur le territoire européen. Le navire L'Aquarius, transportant plus de 600 migrants, devrait finalement aller à Valence.
Et puis dans cette édition encore, nous ferons le point sur la réforme de la SNCF. Elle a été validée hier par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Pourquoi Virginie Calmels n'a pas fini de souffrir? C'est le thème du billet politique de Frédéric Seyss dans un quart d'heure. Elles seront historiques, les poignées de main entre Donald Trump et Kim Jong-un. Poignées de main debout devant les drapeaux américains et nord-coréens, puis assis face aux photographes dans le salon d'un hôtel de Singapour, puis bras tendus encore de part et d'autre d'une longue table de réunion accompagnée de leurs équipes respectives. Depuis la guerre de Corée entre 1950 et 1953, jamais un président américain ne s'était entretenu, ne serait-ce qu'au téléphone, avec un leader nord-coréen. Les flashs ont donc crépité toute la nuit, de 3h du matin à 6h30 environ, à l'heure du déjeuner à Singapour. Et nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Dominique André. Et Dominique, le sommet vient de se terminer.
Oui, il vient de s'achever à l'instant avec donc la signature de ce document commun par le président des États-Unis et le dirigeant de la Corée du Nord. On les a vus côte à côte, ces deux dirigeants, qui ont signé un texte dont on devrait rapidement connaître le contenu, a dit Donald Trump à la presse. Cette séquence à la fois solennelle, puisqu'il s'agit d'une signature entre deux États, s'est faite aussi dans une ambiance assez décontractée sous les caméras. Donald Trump parlait à la presse tout en écrivant. Le président des États-Unis a dit s'attendre à une dénucléarisation de la Corée, de la péninsule coréenne très rapidement. Kim Jong-un, qui s'est exprimé en coréen et qui a été traduit, a promis lui une nouvelle ère qui commencera après cette rencontre historique. Le monde va assister à de grands changements, a dit Kim Jong-un. La séance de signature a duré quelques minutes. Donald Trump a conclu ensuite ce sommet en lançant une invitation à Kim Jong-un à la Maison-Blanche. Puis le président des États-Unis doit maintenant tenir une conférence de presse.
Merci beaucoup Dominique André aux côtés d'Olivia Branger pour les moyens techniques à Singapour. Encore quelques interrogations donc sur les avancées palpables, concrètes dans la pacification des relations américano-nord-coréennes. Le sommet évidemment a été suivi de très près cette nuit par les voisins de Pyongyang, les habitants de Corée du Sud. Nous sommes maintenant en ligne avec Frédéric Ojardias, notre correspondant dans la région. Frédéric, quelle réaction à Séoul après ce sommet tant attendu?
L'image forte de ce matin à Séoul, c'est celle du président sud-coréen Moon Jae-in. On l'a vu arborer un immense sourire de satisfaction alors qu'il regardait la rencontre de Singapour à la télévision. Un sourire révélateur, c'est grâce à ses efforts de médiation que ce sommet a pu avoir lieu. « Je crois que chaque Coréen regarde ce qui se passe à Singapour », a déclaré Moon Jae-in, qui a ajouté « Je n'ai pas pu dormir de la nuit ». Son directeur de cabinet, Im Jung-seok, a lui carrément comparé le sommet à la naissance de sa fille quand il faisait les 100 pas à l'extérieur en attendant l'heureuse nouvelle venant de la salle d'accouchement. La présidence sud-coréenne a déclaré espérer un tournant historique de la guerre vers la paix. Sur toutes les télévisions ici à Séoul, les images de cette extraordinaire poignée de main entre Kim Jong-un et Donald Trump tournent en boucle depuis l'axe du mal jusqu'à cette poignée de main. Quel changement, titre ainsi la chaîne JTBC. Si la droite dure sud-coréenne critique ses efforts en faveur du dialogue et redoute une tromperie de Kim Jong-un, une majorité de gens ici affichent un optimisme prudent. Ils espèrent que ce sommet sera le début d'une nouvelle ère qui mettra fin aux décennies de confrontation avec la Corée du Nord et même un accord modeste qui permettrait d'éloigner les risques de guerre sera considéré comme satisfaisant par la plupart des Sud-Coréens.
Frédéric Ojardias, correspondant de RFI depuis Séoul ce matin. Ajoutons que le quotidien officiel nord-coréen, le quotidien des travailleurs, montre en une ce matin Kim Jong-un se promenant la nuit dans Singapour. Une photo assez inhabituelle car toute la population nord-coréenne a pu voir donc pour la première fois l'éclatant succès du monde capitaliste à Singapour, contraste saisissant face à la pauvreté du moment en Corée du Nord. Les États-Unis vont durcir les procédures de demande d'asile. Cela servira à limiter le flot d'immigrants originaires d'Amérique centrale. Voilà ce qu'assure le ministre de la Justice américain. Les allégations de violences domestiques ou de violences de la part de gangs criminels ne suffiront plus pour déposer une requête aux postes frontières américains. Les États-Unis qui ferment donc en partie leurs portes, quand de l'autre côté de l'Atlantique, une partie de l'Europe fait pareil. L'Aquarius cherche à accoster depuis plus de 48 heures. À bord de ce navire humanitaire, 629 migrants sauvés des eaux ce week-end. Malte et l'Italie ont refusé de leur ouvrir leurs frontières. Nous l'évoquions hier ici même. Et si le président de l'Assemblée corse, Jean-Guy Talamoni, propose lui un port d'attache, c'est Madrid qui, semble-t-il, mettra fin à l'attente. Il y a quelques minutes, l'ONG SOS Méditerranée annonçait que des bateaux italiens du Centre de coordination des secours maritimes, ces bateaux allaient transborder les rescapés pour ensuite, avec l'Aquarius, mettre cap tous ensemble vers Valence. Cela permettra de faire face aux immenses vagues en ce moment dans la mer Méditerranée. Difficile partage des responsabilités donc en Europe face à cet afflux de migrants. La Commission européenne semble inaudible, Pierre Benazet.
Par sa décision d'accueillir l'Aquarius, le gouvernement espagnol a désamorcé ce qui aurait pu se transformer en crise diplomatique interne pour l'Union européenne, avec l'hypothèse d'un rejet par Malte et l'Italie des recommandations de la Commission. C'est d'autant plus plausible que celle-ci s'était gardée de désigner l'un ou l'autre pays, se contentant d'évoquer un impératif humanitaire et d'appeler à un débarquement rapide des migrants de l'Aquarius. Elle avait par ailleurs reconnu que le droit international ne précisait pas qui portait la responsabilité d'ouvrir ses ports aux navires. Au Parlement européen, beaucoup estiment que ce grave imbroglio démontre la nécessité de réformer le droit d'asile européen, en particulier le règlement de Dublin, qui rend responsable de l'asile les pays par lesquels les migrants entrent sur le territoire de l'UE. C'est justement ce que réclament tous les pays riverains de la Méditerranée depuis plus de 10 ans, mais la dernière réunion de l'UE, mardi dernier, pour envisager une réforme de la gestion des migrants, a surtout démontré la persistance du blocage entre les 28. L'attitude de la nouvelle coalition italienne hostile à l'immigration y est pour quelque chose, mais comme les gouvernements précédents, l'Italie demande un partage du fardeau. À l'instar de la Commission, France et Allemagne préconisent de leur côté de maintenir le règlement de Dublin avec uniquement un système de répartition des réfugiés par quota entre pays de l'UE, mais seulement au cas par cas et en cas de nouvel afflux massif de migrants, ce que refusent de toute façon les pays d'Europe centrale.
Berlin ordonne le rappel de plus de 700 000 Mercedes en Europe, 700 000 voitures, des véhicules équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions. C'est ce qu'indique le ministère des Transports allemand. Daimler, la maison mère de Mercedes, s'enfonce donc un peu plus dans le scandale et doit mettre rapidement ses voitures aux normes.
8h08 sur France Culture, la suite des matins et du journal de Clara Lecoq-Réal. Des agriculteurs ont bloqué toute la nuit 16 dépôts de carburant et raffineries en France.
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, recevra donc leurs représentants cet après-midi. La FNSEA et les jeunes agriculteurs protestent toujours contre l'importation de produits agricoles non conformes aux normes françaises et notamment l'huile de palme. Un dialogue est possible, dit le ministre Stéphane Travert. Il demande d'ailleurs parallèlement à Total d'utiliser de l'huile de palme importée, mais aussi de l'huile de colza française. Tout cela sans remettre en cause l'arrêté pris par le gouvernement qui lui permet, grâce à cela, de produire son agrocarburant. Stéphane Travert, chez nos confrères de France Info.
Cet arrêté, il va permettre de redémarrer l'usine de la MED. Mais à l'intérieur de cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des engagements volontaires de Total. Des engagements volontaires de Total pour utiliser 300 000 tonnes d'huile de palme, mais aussi d'acheter 50 000 tonnes d'huile de colza.
Et vous demandez aujourd'hui...
Et moi, je demande à Total, eh bien, d'essayer de trouver les voies et les moyens avec la filière de se mettre d'accord sur des approvisionnements d'huile
Combien
de colza française.
Combien
ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de rentrer dans ces données, c'est à la filière et à l'entreprise de pouvoir négocier sur ce qui pourrait être commercialisé. Mais moi, ce que je souhaite, c'est faire que notre filière colza ne soit pas mise en difficulté, c'est qu'elle reste compétitive. Et pour qu'elle reste compétitive, eh bien, il faut qu'elle puisse fournir de l'huile de colza dans nos raffineries françaises.
Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Nicolas Hulot annonce un plan à 10 millions d'euros sur 2 ans contre les sargasses en Guadeloupe, ces algues brunes toxines nauséabondes qui polluent les rivages. L'État français va prendre en charge près de la moitié de ce financement. Le reste reviendra à l'Union européenne et aux collectivités, dit-il. 29e jour de grève ce mardi à la SNCF contre la réforme ferroviaire. La direction prévoit en moyenne 3 TGV et 3 intercités sur 5, 1 TER sur 2. Hier, députés et sénateurs se sont mis d'accord en commission mixte paritaire sur une version commune du projet de loi de réforme ferroviaire. Cela ouvre donc la voie à l'adoption définitive du texte dès cette semaine, avec quelques garanties sociales, Stéphane Robert.
L'ouverture des liaisons ferroviaires à la concurrence se fera progressivement à compter de l'année 2020 pour les TGV, un peu plus tôt pour les TER à partir de décembre 2019. Mais les régions pourront continuer à signer des contrats de 10 ans avec la SNCF jusqu'en 2023, ce qui repousse l'entrée en vigueur d'une concurrence pleine et entière à l'année 2033. La fin du recrutement des cheminots au statut, lui, entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Mais ça ne signifie pas la fin du statut, puisque tous ceux qui ont été embauchés avant pourront le conserver jusqu'à leur retraite. Et puis les parlementaires ont ajouté à cette réforme la possibilité pour des cheminots partis chez un autre opérateur de récupérer ce statut s'ils venaient à être réembauchés par la SNCF, et ça durant une période de 8 ans. Il y a aussi des garanties en termes de rémunération, ainsi qu'en termes de droit à la retraite. C'est ce qui fait dire aux députés et sénateurs En Marche ainsi qu'à leurs collègues de la droite républicaine qui ont voté cette réforme que ce texte est équilibré. À gauche, en revanche, on continue à dénoncer une loi qui casse le service public. Quant aux syndicats, ils sont divisés. La CGT et Sudrail restent arc-boutés sur un retrait pur et simple. La CFDT et l'UNSA regrettent l'abandon du statut mais estiment qu'il faut maintenant sortir du conflit. Leur calcul étant que le plus important reste à venir, à savoir les négociations sur la Convention collective nationale du ferroviaire, négociations qui ont démarré en fin de semaine dernière et qui vont se poursuivre dans le courant de l'été.
Autre réforme, lourde réforme engagée par le gouvernement, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il est débattu à l'Assemblée depuis hier en commission. Pour le défendre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a mis en avant le refus de la résignation face au chômage et la complexité du système de formation professionnelle actuel. Si les négociations préalables avec les partenaires sociaux ont été longues sur ce sujet, une question n'avait pas été abordée, celle des conditions de travail des milliers de personnes qui œuvrent pour les plateformes sur Internet du type Deliveroo ou Uber. Les députés de la majorité veulent s'y atteler au risque d'un débat houleux, Catherine Pétillon.
Améliorer la protection des travailleurs des plateformes sans pour autant les considérer comme des salariés, voilà en résumé ce que propose l'amendement déposé par le député En Marche Aurélien Taché. Soutenu par le ministère du Travail, il propose d'améliorer le statut des livreurs à vélo, chauffeurs de VTC, bref, de tous ces travailleurs liés aux plateformes par des contrats de prestation, ce qui actuellement ne leur donne aucun droit. L'amendement propose d'inciter les plateformes à signer des chartes de protection sociale. Elle prévoirait la prévention des risques professionnels, des rémunérations qualifiées de décentes et l'accès à un compte personnel de formation comme pour n'importe quel salarié. Mais une telle charte ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et le travailleur, précise le texte. Et c'est précisément cela qui, d'un côté, inciterait les plateformes à signer, mais de l'autre, constituerait une contrepartie de taille pour les travailleurs, à savoir l'assurance pour les plateformes de ne pas être condamnées à les embaucher en tant que salariés avec tous les droits que cela implique. De quoi réjouir ces entreprises qui attendent la fin de ce qu'elles considèrent comme une insécurité juridique pour leur modèle économique. La Fédération des auto-entrepreneurs saluent d'ailleurs un modèle vertueux et innovant. Les syndicats de livreurs, eux, dénoncent des obstacles aux procédures pour requalification qu'ils mènent et Force ouvrière déplore l'instauration d'une zone grise. S'il est adopté, cet amendement pourrait en effet poser les bases d'une sorte de statut des travailleurs des plateformes.
Près de 30 millions de disques vendus, des centaines d'albums et plus de 2000 concerts. La célèbre accordéoniste Yvette Horner est morte hier soir à l'âge de 95 ans. Artiste populaire, elle avait enregistré au cours de sa carrière de nombreux albums donc, devenue la mascotte du Tour de France de cyclisme, égérie de Jean-Paul Gaultier avec sa chevelure rousse et sa robe bleu-blanc-rouge. Yvette Horner avait aussi collaboré avec le danseur et chorégraphe Maurice Béjart sur le ballet Féerie de Tchaïkovski notamment. Noisette.
Ça, c'est Paris.
Incarnation de la France des bals populaires, Yvette Horner avait 95 ans. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, salue sa virtuosité reconnue par toutes les générations. 7 personnes ont été légèrement blessées ce matin dans un RER en région parisienne. 3 voitures d'un RERB qui se sont couchées sur les voies à cause d'un glissement de terrain dû aux intempéries qui frappent la région en ce moment. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, le confirme. L'Île-de-France, où la circulation d'ailleurs est très difficile ce matin. L'autoroute A13, la Nationale 6, la Nationale 4 sont coupées à cause des voies inondées. Et il pleut d'ailleurs toujours. Attention au risque d'inondation dans 24 départements. Des Ardennes jusqu'à l'Ille-et-Vilaine en passant donc par l'Île-de-France. Seul le nord-ouest et le sud-est de la France seront au sec aujourd'hui. Les températures toujours de saison avec 17 à Brest ce matin et à Paris, 18 à Lille, Bordeaux, 20 à Strasbourg et Lyon, 23 degrés à Nice et sur la Corse.